BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver sincèrement comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à la tech. Bienvenue dans De quoi je me mêle les amis, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé le week-end. On est aussi sur YouTube, la version audio. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Merci, merci encore. En tous les cas, encore une fois, nous allons passer une heure pour commenter l'actu tech avec nos spécialistes qui sont là. Je vous rappelle aussi qu'avec le hashtag DQJMM, vous pouvez réagir sur Twitter. Merci encore une fois d'être là et c'est parti pour De quoi je me mêle. Et pour commenter l'actu, eh bien, un duo inédit. On est ravis d'avoir Gonzague d'Ambricourt avec nous. Alors, Gonzague que vous connaissez bien sûr, hein, mais il est aux côtés de JB de The E-Collection. Salut Jean-Baptiste.
Bonjour.
Ravi de te retrouver.
Moi aussi.
Tu étais dans De quoi je me mêle il y a quelques semaines cela avec Anthony. Et voilà, on est ravis de vous retrouver tous les trois pour commenter l'actu de cette semaine. Une actualité, voilà... Bah, très riche, avec donc la Google I.O. qui s'est déroulée mercredi soir à Mountain View, vous savez, au siège de Google. La Google I.O. chaque année, et bien voilà, pendant plusieurs jours, tous les développeurs du monde entier sont invités, alors soit physiquement, soit virtuellement, à découvrir toutes les nouveautés que Google, en fait un peu la feuille de route hein, de Google pour l'année en matière de logiciels, de tendances, c'est ça hein, Gonzague, un peu la Google I.O.
Ouais, exactement, bah, c'est le rendez-vous que la marque établit alors, avec les développeurs initialement et puis finalement beaucoup avec la presse maintenant, parce que ce sont des événements de communication. Comme l'événement Apple qui aura lieu dans deux semaines, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire on annonce les interfaces, la façon dont vous allez pouvoir travailler avec les produits qu'on a, les produits, qui étaient aussi quand même une particularité, le jour où Google s'est mis vraiment à faire du hardware. Et là, il y a eu pas mal d'annonces hardware,
ouais.
On pourra revenir là-dessus.
Ça faisait longtemps qu'à cette période de l'année, il n'y avait pas eu autant de hardware,
et
donc c'est plutôt cool.
Et je pense que c'est aussi l'événement pour rattraper leur retard sur tout ce qui est intelligence artificielle, la concurrence de ChatGPT et des intégrations que Microsoft a fait dans Bing, les pousse un petit peu. Donc on a vu ces dernières semaines beaucoup de tâtonnements, et là je pense qu'ils essayent de se réaffirmer comme leader.
Oui, Alexander Pichai qui a ouvert évidemment cette keynote qui a duré un bon moment.
Hein, plus de deux heures, non ?
Oui, plus de deux heures.
Et justement, plus d'une heure sur justement uniquement l'intelligence artificielle.
Ben oui, bien sûr.
Donc, c'est qu'ils avaient vraiment du retard à rattraper pour le coup.
Alors, ce n'est pas la première année qu'ils parlent d'IA. Hein. Google, non. C'est un peu leur fer de lance. C'est ça qui est terrible en plus. C'est que c'est des gens qui poussent ça depuis de très nombreuses années. C'est peut-être les pionniers d'ailleurs dans l'IA. Mais ChatGPT est arrivé par là, a donné un coup de boost incroyable à OpenAI et à Microsoft. Et Google s'est retrouvé un petit peu en retrait sur des travaux qu'ils font depuis des années. On se souvient l'année dernière de toutes les innovations, beaucoup sur la traduction. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez,
ouais,
l'année dernière,
il y avait
ces lunettes.
Tu avais l'assistant qui appelait les restaurants pour savoir s'ils étaient ouverts, enfin les business,
voilà,
se faisait passer pour un humain, ce qui avait été aussi assez controversé quand
Donc
même.
Donc ils avançaient déjà sur cette direction-là, mais ils y allaient, on va dire, mollo.
Mais en fait, là, c'est un paysage complètement différent, l'intelligence artificielle et les large language models, les LLM, donc c'est ChatGPT, c'est Bard, etc. Et c'est aussi ce qu'a fait Meta. C'est quelque chose, il y a un courrier d'un salarié Google qui a fuité, qui dit « on n'est plus du tout dans la position de leader qu'on avait jusqu'à présent. Ce leadership, on peut le perdre en un mois. » Et c'est ce qui s'est passé avec OpenAI, qui a fait complètement disparaître de l'actualité et du devant de la scène Google, qui revient maintenant avec Bard. Donc en fait, là maintenant, ça va être un concours de...
Oui, bien sûr.
Alors, qui a tiré en dernier et qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as intégré qui va aussi révolutionner le quotidien des gens ?
Mais qu'est-ce qui marche le mieux aussi ? Parce que c'est ça aussi...
Dans le passé, ils faisaient déjà énormément d'intelligence artificielle, bien sûr. Google Maps, par exemple, c'est quand même déjà un produit qui fait plein de trucs sans qu'on s'en rende compte, d'analyser les photos, les façades, machin. Là, on va dans un autre paradigme et qui change de ce que Google avait formulé, qui est juste de catégoriser du contenu, de l'enrichir. Là, ça change complètement et je pense qu'on pourra l'aborder. Rien que la recherche Google va changer de façon assez fondamentale et c'est potentiellement un danger pour tous les éditeurs de sites web.
Ouais. Alors, on va revenir sur les annonces, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'annonces concernant l'IA, aussi sur les produits. Hein, et d'ailleurs, tu es venu avec le tout nouveau Pixel 7a, qui est, on va dire, l'entrée de gamme. On va en parler dans un instant. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de cette Google I/O, JB ?
Que Google s'est aperçu que même si c'était leader sur le domaine de la recherche, bah, ils ont une grosse concurrence qui arrive de tous les côtés, que ce soit dans les smartphones, ça existe depuis bien longtemps, mais surtout sur toute l'intelligence artificielle, sur le machine learning et sur les recherches. Et en fait, ils se sont dit, en fait, OK, on est connu et reconnu par le grand public de tout le monde, mais il faut quand même qu'on mette la seconde pour rattraper tout le retard qu'on a eu. Donc, je pense que c'est pour ça que pendant une grosse heure, ils ont parlé beaucoup d'intelligence artificielle sur tous leurs sites, que ce soit Google Maps, que ce soit Gmail, que ce soit la recherche et autres, et qu'ensuite, ils soient passés dans tout ce qui est produit, parce qu'il y a quand même 3 annonces de produits majeurs. Ce qui est assez rare dans une conférence qui est de base axée 100% pour les développeurs.
Ouais. Gonzague, on a l'impression que Google s'est pris les pieds dans le plat en se disant je travaille sur l'IA depuis des années et des années, mais finalement cette IA doit être transparente. Les gens ne doivent pas trop se sentir qu'il y a de l'IA, alors que OpenAI c'était tout l'inverse. J'ai un peu cette impression-là.
Ouais,
et puis d'un coup, là, Google se dit waouh, mais attends, on est en train d'aller dans la mauvaise direction.
En fait, ils ont été bousculés par les autres. Parce que toi, tu peux te dire, tête dans le guidon, OK, l'approche qu'on a, elle est excellente et on va faire ça. Et quand tu es leader, c'est un peu le danger. Ouais. Ils ont des milliers d'employés, tout le monde leur dit Google, c'est trop fort, c'est trop bien. Et arrive, alors c'est pas une si petite boîte que ça, OpenAI, avec des idées différentes, des façons de faire et un intérêt du public aussi. Parce que l'adoption de techno,
oui,
comme
il y a
GPT,
une médiatisation incroyable.
Incroyable. En fait, quand mes parents savent ce que c'est, quand les enfants de mes amis savent ce que c'est, c'est très, très différent.
On peut dire que ça a été
ça en 6 mois.
Une innovation de rupture,
complètement.
Finalement.
Donc, ça change la façon dont on interagit avec l'informatique. Ce qu'on voit aussi là ces derniers jours, c'est les plugins de GPT qui permettent de faire du code, de générer. Enfin, on est en train de changer la façon dont on fait de l'informatique et dont on interagit avec des systèmes, avec de l'information, avec les langues, parce que les LLM, ils comprennent des tonnes de langues. Alors, on verra, il y a une limite à Google Bard qui, pour l'instant, ne parle pas français.
Ne parle pas français.
Donc,
là encore, c'est bizarre.
Ça change tout.
C'est un signe. ChatGPT est arrivé. Le jour où ils ont appuyé sur le bouton, ils ont libéré la bête, bah, ça parlait je ne sais pas combien de langues, et notamment le français. Quoi.
Ouais, c'est surtout. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vu il y a 2-3 semaines, justement, Samsung qui disait que peut-être ils allaient abandonner Google en natif dans les smartphones et prendre Bing à la place qui embarque ChatGPT. Je pense que Google a encore voulu mettre la seconde lors de la Google I/O pour justement dire à Samsung, bon, regardez quand même, nous, on va quand même vous proposer de l'intelligence artificielle derrière ça. Ne partez pas directement, on est là, parce que derrière, il y a des gros billets qui se vaut.
Oui, bah, ils ont une stratégie qui est un petit peu insidieuse. C'est Google Chrome, navigateur le plus utilisé au monde, le plus déployé.
Donc, bien sûr,
ça
très
génère
efficace
une force,
aussi.
Très efficace, mais qui t'enferme, parce qu'il y a des sites qui ne marchent plus que dans Google Chrome. On revient à des vieux trucs où on disait, vous avez Internet Explorer 5 ? Et bien là, maintenant, si vous n'avez pas Chrome, le site ne marche pas. Donc, ils ont cette grosse base de développement. Ils ont Android. Énorme marché, énorme moyen d'être présent dans le monde. Effectivement, si c'est challengé par les autres, très, très compliqué. Ils payent Apple des sommes astronomiques pour être le moteur de recherche sur iOS et sur macOS. Donc, tu vois, oui, ils sont dominants, mais aussi parce qu'ils mettent de l'argent dans plein de trucs. Et si cette position, elle est challengée si vite, tout se remet en question. Toute ta stratégie, toute la confiance que tu avais, elle est un peu ébranlée. Et la façon, l'évolution des LLM, et en fait, finalement, de l'intelligence artificielle et nos interactions avec, fait aussi que si tu t'es enfoncé dans un chemin très précis et qu'il y a quelqu'un qui a une autre approche, qui tout d'un coup est beaucoup plus efficace, avec beaucoup moins de risques aussi, parce qu'on a vu quand même aussi les risques de ce genre de système qui peut proférer des âneries avec beaucoup d'assurance.
Oui, tout à fait.
Et bien, en fait, si tu découvres une autre façon de le faire, et c'est ce que des chercheurs déclarent ces derniers temps, c'est que dans 6 ans, on n'utilisera même plus ChatGPT. Ce sera plus du tout pareil. Ça aura totalement changé la façon dont ça marche. Et donc, c'est un challenge énorme pour Google et pour les autres.
Alors, donc Google accélère sur l'IA et ça arrive en fait dans des environnements qu'on connaît bien. Par exemple, dans Gmail, où il y a eu des démos assez impressionnantes. Vous avez Gmail qui répond automatiquement à un mail que vous n'avez rien à faire. Quoi.
Ils avaient déjà lancé, je crois que tu utilises aussi Gmail, ils avaient déjà lancé l'autocomplétion. Donc, ils commençaient à taper, ça disait « Bonjour François », parce qu'il sait que tu as mis François comme destinataire. Des trucs tout bêtes où à l'époque, il disait qu'il n'y avait pas de pièces jointes. Là, effectivement, on va vraiment dans le génératif. Donc,
On
se rapproche de ChatGPT, c'est qu'en prenant le contexte des mails précédents, je peux déduire la réponse. et ils vont l'intégrer dans d'autres produits, donc dans Docs, dans Sheets, etc. Ça prend des formes différentes. Donc là, on a à l'image le Google Docs qui commence à écrire un texte en disant aide-moi à rédiger un intitulé de poste, etc., une fiche de mission, et paf, ça le structure. Bon, encore une fois, faut faire attention, mais
c'est
impressionnant. Et ça revient sur ce qu'on se dit à chaque fois, sur la transformation que ça peut induire dans nos métiers, même les nôtres, du journalisme ou perso pour l'informatique, ça me concerne
aussi.
C'est
bizarre parce que, alors, peut-être parce qu'on n'a on pas eu l'habitude de faire ça, mais moi, ça me gêne de me dire que c'est Google qui va répondre à un mail à ma place.
C'est impersonnel.
C'est impersonnel, ouais. Et puis je me dis, finalement, est-ce que je vais pas prendre plus de temps à relire le mail pour voir s'il n'y a pas une connerie ? Parce que, enfin, je veux dire, un mail, c'est un hyper perso, deux, pour le job, tu peux pas écrire n'importe quoi. Enfin, c'est bizarre. Autant ChatGPT, c'est souvent un travail que tu vas pouvoir relire tranquillement, etc., parce que c'est pas quelque chose que tu vas poster comme ça automatiquement. Mais là, un mail, c'est étrange.
Ouais. Moi, je sais que je le ferai pas. Parce que j'aime bien déjà rédiger les mails et qu'ils soient un peu personnels sur chaque personne à qui on envoie un mail.
Bien sûr, évidemment.
Et surtout que, oui, en effet, ça peut se tromper, ça peut mettre un mot à la place d'un autre mot, on ne sait jamais, même si c'est vachement intelligent, mais bon, jamais. Et ce que j'ai peur, c'est surtout qu'on devienne peut-être des assistés et qu'on ne fasse plus des choses par nous-mêmes, qu'on se dise, bon, on n'a plus rien à faire, on
est déjà
sur un bouton.
Ouais, on l'est déjà.
Mais là, ça va quand même très très loin.
Plus.
Ah ouais, ça va très très loin et je pense qu'il y a quand même une limite à garder sur ça. Mais pour rebondir sur justement l'IA de Bard, maintenant ils ont même rajouté sur les photos et les vidéos. Mmh. Parce que là, de base, ChatGPT, c'est que du texte. Mmh. Mais là, on peut par exemple mettre une photo et en fait, il va nous analyser tout ce qu'il y a dans la photo. On peut lui dire, raconte-moi une histoire sur cette photo. Et on a deux chiens et tu vas nous raconter une histoire sur les deux chiens.
Donc il va créer une histoire.
Il va tout créer, c'est sur justement une base de photos ou d'audio ou de vidéos.
Ouais,
très loin.
Peut-être qu'un jour, il pourra nous faire le sommaire de quoi je veux mail simplement en lui envoyant une photo de nous trois. Ils vont dire, tiens, Gonzague,
vous
aime bien,
Lorenzo. Bah ouais. Sur la table, il y avait un pixel de Bose, vous allez parler de Google.
Ben, c'est ça.
Non, donc ils ont l'intégration dans Gmail. Alors, effectivement, comme on dit, c'est pas forcément l'intégration la plus évidente. Dans Google Docs, je pense que c'est peut-être plus pertinent de dire, fais-moi un sommaire de ce que je pourrais raconter si je parle de l'intérêt des montres connectées. Genre, JB, il a envie de se faire un speech sur une émission, ça peut donner des bases structurées. Évidemment, ça veut pas dire que ça va tout faire à ta place, ça veut pas dire que tu l'enrichis pas toi-même, et ça veut pas dire qu'il faut pas corriger. Mais c'est vrai que ça peut aider dans certaines tâches. Le truc qu'on va voir aussi, à mon avis, qui va changer, là, ces dernières années, on parlait déjà beaucoup de no-code, qui permet de faire des applications sans savoir programmer. On prend des choses entre elles, on les connecte. Ça nécessite quand même d'avoir un peu la logique de comment marche une base de données et tout. Mais là, le futur du truc, c'est dit, fais-moi une application qui permet de faire l'inventaire de ma cave à vin. Clac, crac.
Incroyable.
Et l'appli, elle sort. Explique-moi la comparaison entre... Il y a des mots qui sont assez impressionnantes. Là, des gens qui prennent des chiffres qui ne sont pas capables de mettre eux en perspective et dit, fais-moi une carte des pays les plus attractifs au monde et ça va cumuler tout seul plusieurs critères. Ça va le faire. C'est assez dingue. Après, alors si on veut parler des autres produits dans lesquels il s'intègre, Bard... Et avec lesquels ils s'intègrent, Bard et Firefly de Adobe.
Oui.
Donc là, ils vont faire un système où tu vas pouvoir générer des images. C'est ce qu'on connaît avec DALL-E, etc.
Avec Midjourney aussi.
Avec Midjourney, je pense que c'est l'approche de Google et d'Adobe pour se dire ne nous faisons pas oublier dans cette course. Où effectivement, c'est vrai que Midjourney, c'est maintenant le plus bluffant là, avec la release 5.1. C'est...
Et puis Adobe est vraiment, alors on va dire, tout aussi menacé que les autres finalement, tout ça. Parce
mais
que
regarde.
La retouche photo, c'est presque...
Photoshop, ouais.
Non, mais c'est dingue, c'est incroyable.
Et
en quelques semaines,
ouais.
Tu te retrouves avec un outil qui perd en intérêt parce que finalement, retoucher une photo, demain, c'est pas la photo que tu vas retoucher, tu vas la refaire, quoi.
Ouais, ça c'est Magic Editor, donc c'est dans Google Photos, il y aura effectivement cette fonction. Alors ils avaient déjà la gomme magique. Et en fait, ça, c'est au final, c'est quelque chose que Photoshop et les autres font déjà depuis longtemps, de mieux en mieux, hein, puisque ça, c'est appuyé sur la puissance des ordinateurs pour essayer de comprendre ce qu'on est face et ce qu'il faut remettre en remplacement du vide. Le Magic Editor ira un peu plus loin. Tu vas vraiment pouvoir complètement transformer ta photo. Et là, il y a des trucs où, en quelques clics, tu changes de coupe de cheveux,
on enlève une tache sur un vêtement, on change le ciel, on peut tout faire.
Voilà, donc c'est
sur son smartphone ou sur Google Photos.
Donc tu peux manger des pâtes à la bolognaise et après tourner une émission sans aucun problème.
C'est assez bluffant, mais je pense que la démarche, c'est que Adobe va intégrer ce genre de choses dans ses outils. Après, je sais pas si Photoshop est menacé, c'est des outils un peu professionnels quand même, tu vois. J'ai l'impression que ce qui est plus menacé, c'est les outils du quotidien qui sont utilisés vraiment par des masses plus fortes. ça va transformer la façon dont on fait du Photoshop, sûrement. Ça va peut-être transformer la façon dont on fait des sites web, dont on fait tout, puisque tu peux être aidé à faire du code comme on le voit encore.
Alors, on prend un peu de recul là, mais c'est vrai qu'on manque énormément de développeurs et de codeurs. Ouais. Et on a eu des appels incessants de la part des pouvoirs publics, des écoles, enfin tout le monde, de dire il faut former des développeurs, des codeurs, etc. ChatGPT code.
Oui.
Développe des trucs. Est-ce que ça ne va pas aussi freiner l'appétence de ce métier ? Dont on disait qu'il était hyper indispensable, que ça allait être la direction qu'il fallait prendre pour beaucoup de jeunes. Non, je me pose la question.
Je pense que le métier de développeur, déjà, comme beaucoup de métiers, il change dans le temps. Avant, quand tu développais, tu partais vraiment de zéro. Après, il y a eu ce qui s'appelle les frameworks, qui sont des espèces de bases de code qui te permettent de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Et là, on approche en fait vers ce genre de choses. Donc, le métier de développeur change.
Mais est-ce qu'on en aura autant besoin ?
Je pense quand même.
Parce que finalement, je sais plus qui m'expliquait que tu peux simplement, avec ChatGPT, te créer une appli en quelques minutes.
Oui, je pense que pour le moment, en tout cas, à date, ce qui évolue, et c'est comme on en parle à chaque fois, le métier du comptable. Le métier du comptable, jusqu'à présent, c'était beaucoup d'entrée des chiffres et de les faire correspondre dans un tableau. Ça, c'est largement automatisable, donc on va plus vers l'expert comptable, vers... Aide-moi à comprendre ces chiffres, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire ? Est-ce qu'il faut que je m'inquiète de tel ou tel truc ? Tu vois, on apporte de l'expertise, alors que l'informatique peut aider aussi à apporter. Sur le développement, il faut quand même aussi se dire, pour l'instant, ChatGPT et les autres ne font pas un programme énorme, structuré, avec des tonnes de fonctions.
Aujourd'hui, Gonzague.
Bien sûr, aujourd'hui. C'est pour ça que je disais aujourd'hui. Donc, effectivement, peut-être que d'ici quelques années, ça aura changé.
Parce que
tu
vois qu'il faut une inertie de 3 ans, peut-être, pour former un bon développeur. Où est-ce qu'on sera dans 3 ans ?
Je pense que l'intérêt restera quand même d'avoir compris comment fonctionne un programme pour pouvoir aussi le dépanner, l'améliorer. Peut-être que tu ne l'écriras plus, mais peut-être que tu seras ce qu'on rigole du prompt engineer, les gens écrivent des prompts à ChatGPT et autres, en disant il faut savoir comment structurer la demande que tu veux faire. Et c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est doué sur Google, quelqu'un qui est doué en recherche Google, il sait écrire sa recherche pour obtenir très vite son résultat. C'est là, le métier changera comme ça, je pense.
Mais je pense que rien ne remplacera le cerveau humain. Que quoi qu'on en dise, le cerveau humain, lui, il est multifacette, il réfléchit partout, il peut créer, il peut imaginer ce qu'une intelligence artificielle ne fait pas, puisqu'elle se base juste sur ce qu'elle a appris sur Internet. Donc en soi, on aura toujours besoin du cerveau humain pour directement améliorer le code, améliorer un script, améliorer un texte. Donc ça peut être une bonne base, mais pareil, comme pour les comptables, ça peut remplacer la comptabilité classique, mais si on a besoin vraiment de beaucoup plus d'informations, on aura besoin d'un cerveau humain qui va rassembler toutes ces données, qui va permettre de faire un vrai tableau d'expert comptable. Donc je pense qu'on en aura toujours besoin des humains derrière et que ça ne pourra pas remplacer à 100% l'humain.
Après, revenons à cette conférence Google I.O. Effectivement, le cœur de métier de Google, encore aujourd'hui, c'est la recherche. C'est la puissance de Google, qui est un outil incroyable, qui a bouleversé nos vies. Est-ce que Google va modifier, on va dire, sa mine d'or, en quelque sorte, sa poule aux œufs d'or ?
Alors moi, je dirais qu'ils ont 4 métiers. La recherche, la publicité... Et les services en entreprise, qui sont Google Workspace, donc tout un environnement de collaboration, de mail, etc. Et la Google Cloud Platform, qui est le concurrent de Microsoft AWS, qui est un marché très, très important pour eux. Effectivement, sur le search, pour ta question...
Et le search et la pub sont intimement liés, en plus.
Bien sûr, mais la pub, ils ont de la chance, c'est que ça marche aussi via d'autres sites, via YouTube. C'est la liaison de beaucoup de produits entre eux. Tu as de la pub dans Waze, qui est de la pub gérée par Google. Sur la recherche, là, ils ont présenté à la conférence I.O., de l'IA générative, donc c'est comme ChatGPT, capable d'écrire du texte dans le moteur de recherche. Donc tu fais une recherche et Google te répond un texte qui va être placé avant les résultats des sites web. Donc si tu as trouvé l'info que tu cherchais...
Mais on l'a déjà ça finalement.
Quand
tu tapes, je ne sais pas moi, un truc, parfois tu as du contexte contextuel depuis des mois.
C'est du contenu formaté. Donc les sites web, ils décrivent ce qu'ils ont noté, comme par exemple une FAQ. Et Google va identifier, ça répond peut-être à la question et te lister les trucs. Donc effectivement, déjà, ça a enlevé du trafic au site web, qui pour l'instant vivait du fait que tu vas sur Google, tu cliques sur un résultat. Quand tu vas sur le site, la pub s'affiche l'éditeur du site gagne de l'argent. Là, si on fait ça, effectivement, ça réduit le trafic vers les sites web. ça augmente aussi ça reste captif de Google pour l'internaute.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour Google.
C'est une mauvaise nouvelle pour les éditeurs de sites. Là, ils ont présenté dans ce qui s'appelle les Search Labs chez eux, c'est donc le laboratoire de la recherche, l'IA générative qu'on voit à l'image pour ceux qui nous regardent en vidéo, et qui donc va te répondre, et peut-être que tu n'auras plus besoin d'aller sur les sites, et tu vas pouvoir aussi dans le futur chatter avec. C'est ce que Bing propose déjà dans...
JB,
avec ChatGPT.
Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que
ça va faire encore une fois gagner beaucoup de temps et que le temps c'est l'argent et que finalement quand on peut gagner du temps à des tâches qui sont un peu répétitives, c'est toujours bien. Quand on a juste à mettre une question sur Google et d'avoir la réponse sans devoir cliquer sur 3-4 liens où finalement on a des pavés de texte, des pubs qui se mettent au milieu, ça fait quand même gagner du temps, c'est cool.
Il y a Google Maps aussi qui va être boosté. Alors incroyable. Ça c'est génial, la météo va apparaître sur Google Maps, c'est des trucs incroyables.
Le Google Maps immersif qui s'améliore,
c'est un vol d'oiseau.
15 villes pour l'instant, dont Paris, et qui va être déployé d'ici la fin de l'année, ça c'est très joli. Bon, c'est au quotidien, ça ne change pas trop.
Mais une petite fonctionnalité
c'est
sympa.
Chouette en fait, effectivement, pour se balader sans bouger, c'est... Si un jour le Covid revient, je touche du bois.
Un mot maintenant sur les produits, parce qu'on le disait, c'est quand même important. Et c'est arrivé à la fin de la présentation. Pas mal de choses. Tablette.
Smartphone.
Le Pixel 7a que tu as en main, que tu as déjà un peu pris en main, c'est ça
Exactement. En fait, Google, à chaque mi-année, parcours des Pixel grands chiffres, ils sortent une version A, qui est une version un peu moins performante des autres, mais du coup moins chère. Bon, sauf que celle-ci, elle est 100€ plus chère quand même que la génération précédente, parce que je pense, comme partout, les prix augmentent. C'est un très bon téléphone, c'est un téléphone milieu de gamme à 509€, 5G, qui est très joli, 6,1 pouces d'écran, 90 Hz, appareil photo 48 millions de pixels, il fonctionne super bien. Il a la nouvelle puce Tensor G2, qui est justement la propre puce de Google côté performance, et c'est un très bon téléphone pour le coup, et qui est bien aidé par l'intelligence artificielle de Google dans les photos, dans la prise de photos.
C'est un peu le point fort de cet appareil.
Totalement,
hein,
et surtout, comme c'est full Google, c'est-à-dire qu'ils font le hardware et le software, tout marche en symbiose, comme Apple, iOS, c'est pareil. Donc c'est un super téléphone, vraiment.
Beaucoup de différences avec le Pixel 7 Pro en termes de qualité photo, justement, je crois qu'il y a, il y a peut-être un objectif.
Il y a un capteur en moins, mais celui-ci vient plus concurrencer peut-être le Pixel 7 petit format.
C'est ça.
Il y a un capteur en moins qui est un peu plus le même design et le même style d'écran. Ça reste assez proche, mais il est un peu moins spéqué. Et on voit par exemple que les bordures d'écran sont un peu plus grosses que sur les Pixel 7.
Oui,
il est il y a quelques petites.
Il est moins premium, on va dire, en termes de finition.
Mais il a quand même de la recharge sans fil, il est IP68, il a un écran résistant, il a un écran qui réagit très bien, qui est 90 Hz. L'année dernière, c'était du 60 Hz. Et bref, c'est un bon petit téléphone, vraiment.
Ouais, plutôt joli en plus. Là,
et
dans
c'est
cette
le seul qui sort en France, parce que Google a à côté annoncé son fameux Pixel Fold.
Alors voilà, ça aussi.
Sa tablette, son smartphone tablette en soi, mais qui lui ne sortira pas en France.
Ça alors.
On est boudé.
C'est bizarre quand même.
Je comprends pas trop la politique commerciale, mais même sur le
alors
même sur les pixels.
Ça sort aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, et pas en France.
Ouais.
Et alors, quand on pose la question au porte-parole de Google, ils disent oui parce que la France. Alors en plus, c'est un peu vexant quand même. Ouais, n'est pas prêt encore à avoir des téléphones pliants. Alors pas prêt, c'est peut-être pas le mot, mais le marché n'est pas assez mature, on va dire. Pourquoi qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là
C'est étrange. Pourtant, je commence à voir dans les transports, etc., des smartphones qui se plient. J'y croyais
pas les seuls, parce que Oppo, par exemple, avait pu sortir le Find N et le Find N2 dans d'autres pays, mais pas en France.
Bon, apparemment,
c'est pas la première fois.
Oppo va peut-être même complètement quitter la France. Donc
c'est incroyable,
malheureusement.
Cette histoire-là, quand même. Ouais. C'est fou, hein. C'est vrai qu'il faudra qu'on en parle un jour un petit peu plus longuement.
Celui-ci ressemble beaucoup au smartphone de chez Oppo qui se pliait, côté format, parce qu'il est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact que le fameux Z Fold 5 de Samsung, ou Z Fold 4 plutôt. Le 5, je crois que c'est cette année.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au-delà de tous les constructeurs chinois, un constructeur américain, Google, s'intéresse aux pliants. Ça veut dire que ça commence un peu à se démocratiser. Ça annonce peut-être le meilleur sur d'autres marques américaines, suivez mon regard, qui pourraient peut-être un jour regarder de près ce format-là. C'est ça qui est intéressant.
Après, celui-ci quand même a des énormes bordures intérieures.
Ouais.
Google a fait un choix assez particulier. Quand on sait que Samsung, ils essayent de faire le moins de bordures. Là, pour le coup, les bordures, on a l'impression d'avoir presque le premier Galaxy Fold en 2019. Donc, comme il ne sortira pas en France, on ne peut pas l'essayer. On ne l'a pas encore testé et on le testera peut-être jamais. Peut-être une deuxième version
l'année
prochaine.
Peut-être que l'année prochaine, il sortira, en effet. Je pense que c'est aussi une démonstration technologique parce que ce téléphone fonctionne avec Android 14, qui a été boosté, en fait, pour fonctionner sur les smartphones pliants. On peut imaginer que ça arrivera aussi sur les Samsung lors de la prochaine mise à jour. Et c'est aussi une démonstration technologique. Pour eux, c'est important d'avoir un appareil qui s'ouvre pour montrer, regardez, on a fait Android 14, il est fait pour ça et on vous le montre sur l'appareil qu'on a conçu.
C'est tout à fait le côté plateforme dont on parlait au début en introduisant l'intérêt de
un
la
peu
Google
comme
I.O.
Microsoft et Surface, en fait, qui a souvent lancé des produits avec des concepts logiciels qui étaient liés aux produits qu'ils fabriquaient.
Ouais. Tablette à clavier amovible, et vice-versa, ordinateur qui se plie, et ils ont fait...
Mais c'est peut-être ça la force de Google, justement, sur ce fameux Pixel Fold, c'est que souvent, ce qui est reproché aux smartphones qui se plient, c'est que l'OS ne suit pas. Mm. Les applications ne sont pas optimisées, elles ne sont pas adaptées, on s'y perd, c'est gros, c'est pas assez optimisé. Là, c'est Android L, version donc large écran qui se plie. C'est peut-être le premier smartphone qui est 100% adapté, optimisé aux applications qui se plient, qui s'ouvrent. À faire à suivre, il y a le tablet mode qui est un peu le flex mode de Samsung qui existe. Ouais, il y a même un mode pour la traduction où on peut le déplier, regarder nous quelque chose et la personne derrière via l'écran va avoir la traduction en temps réel. Il y a pas mal de fonctionnalités qui existent. Encore une fois, c'est pas en France, donc ce sera pas pour nous, mais ça amène que du bon sur le monde du pliant.
C'est un peu dommage que ça sorte pas en France, mais que voulez-vous. Voilà. Un mot aussi sur une tablette qui a été présentée. Alors, elle a été présentée l'année dernière, et je trouve qu'elle est plutôt intelligente, cette tablette, avec à la fois le petit support qui permet de la poser, et ça la transforme en quelque sorte en dock Google Home, un truc comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
En fait, ils ont fait le bon pari de se dire, on a créé depuis des années un Google Home, un Nest Hub, qui permet d'avoir une tablette pour chez soi, pour la maison. Sauf que désormais, on peut la détacher de son socle, cette fameuse tablette, et partir avec et faire sa vie un peu comme une tablette classique. Donc, cette tablette, elle sort là dans les prochaines semaines. Elle a un large écran, elle a plusieurs micros, plusieurs appareils photo, plusieurs haut-parleurs. Elle permet, une fois qu'elle est posée sur son dock, d'être un vrai appareil de maison pour gérer sa domotique, pour gérer tout ce que l'on souhaite avec l'assistant vocal Google, bien entendu, assistant. Et cette tablette, en plus, elle est compatible Chromecast. Donc, on peut, avec son smartphone, envoyer du contenu dessus. Et via le charging dock, qu'on voit justement à l'écran, qui est une petite base qui vient s'aimanter avec la tablette, eh bien on peut envoyer du contenu, faire des visios, on peut tout faire.
Ouais, c'est un produit 2 en 1, c'est plutôt malin. Ouais.
Heureusement, parce que 679 € quand même en France. Alors, 499 aux US, mais...
Et voilà, on rajoute quasiment 200 € de taxes, de copie privée,
mais
de TVA.
C'est vrai, je suis super d'accord sur l'intérêt du produit versus, effectivement, Amazon qui a sorti également ses assistants domotiques qui sont des grosses tablettes, mais coincées. Mmh. Et en fait, si tu es dans ta cuisine, ergonomiquement, c'est pas forcément génial d'être coincé. Tu as peut-être envie de bouger dans ton canapé. Ça, c'est pas mal. On aime bien.
Et bien voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette Google I.O. pour cette première partie de quoi je me mail. On va rester dans tous ces domaines dans un instant parce qu'on a plein d'autres sujets à aborder dans la deuxième partie. Donc vous restez avec nous si vous êtes à la radio, à la télé, ça se suit. Mais si vous êtes par exemple sur YouTube, ça sera le deuxième module de quoi je me mail avec au sommaire Huawei qui tente de revenir avec un nouveau smartphone. Vont-ils y arriver ? Alexa qui réagit un peu à sa manière avec son assistant vocal. Et puis Zelda qui sort cette semaine. C'est l'événement jeu vidéo, sans doute de l'année 2023. On en parle avec JB et avec Gonzague. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, nous sommes de retour pour notre deuxième partie de quoi je me mail, toute l'actu tech, avec donc pour cette semaine JB de The E-Collection qui est avec nous. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ses vidéos sur YouTube, bien sûr. Et puis Gonzague d'Ambricourt.
Messieurs.
Entrepreneur, blogueur, passionné par les nouvelles technologies. Et on commente l'actu de cette semaine, les amis. Avec donc une première partie sur Google I.O., on a essayé d'être le plus exhaustif possible sur cette conférence qui a duré 2 heures avec beaucoup, beaucoup de choses. Mais dans l'actualité, il y a autre chose cette semaine. Et notamment Huawei qui a annoncé en fait ses nouveaux smartphones dans un contexte très compliqué parce que le P60 Pro qui est annoncé là sort alors que c'est un téléphone qui est toujours interdit de Google. Et donc c'est très compliqué pour Huawei de surnager et d'arriver à s'imposer avec ce téléphone qui pourtant ne démérite pas en plus. C'est ça le paradoxe.
Interdit de Google et de 5G parce qu'il n'y a toujours pas de 5G chez
toujours
Huawei.
Toujours pas de 5G sur le P60, vous rendez compte.
Alors que c'est un smartphone vendu quand même à plus de 1 000 €, mais qui est très très bien spéqué, qui a un magnifique écran, un triptyque photo magnifique. Huawei y croit toujours, pensent vraiment que d'ici quelques mois, la 5G va bel et bien arriver sur leur smartphone. Pour Google, c'est un peu moins sûr, mais bon, on ne sait jamais. Mais ils ne déméritent pas, et en effet, ils sortent, ils ont annoncé là, il y a quelques jours ces smartphones, y compris un smartphone pliant, et après toute la gamme des P60, dont uniquement le P60 Pro, pour lui, sortira en France.
Qui sont Donc des... le P60 Pro sortira en France?
Oui.
C'est fou ça, quand même. C'est étonnant, hein, parce que... Enfin, bah... moi, ce qui me tue, c'est la résilience de Huawei, qui se dit, ben, on lâche pas le bout, c'est très compliqué, vous vous rendez compte, un smartphone sans les services Google et sans le Play Store, c'est quand même compliqué.
Bah, moi je peux parler que de mon cercle d'amis, mais effectivement, les gens qui utilisent des smartphones Android, c'est pour bénéficier des services Google. Donc, je les imagine mal prendre un téléphone qui ne l'est pas. Alors, c'est dommage, parce que c'est vraiment des photophones premium... assez qualitatif, et ils sont victimes de cet embargo imposé par les États-Unis. J'arrive pas à savoir pas la boule de Madame Irma pour dire quel est le futur pour
même la cible, parce qu'il y a pas de WhatsApp par exemple sur des smartphones de chez Huawei, parce que WhatsApp c'est uniquement via Google, on peut pas l'avoir via l'application App Gallery qui est le store de
oui,
Huawei.
Ou alors tu peux l'installer, mais il faut que tu passes par des sites,
des APK,
etc. Et puis tu prends des risques de télécharger des trucs avec des virus.
Exactement. Enfin, bon,
en fait, toutes les applis qui dépendent du cœur de service Google, qui assure des fonctions de sécurité, de mise à jour, etc., ne marchent pas. Ou alors au coût de grosses galères. Donc effectivement, ce n'est pas une expérience que pour monsieur et madame tout le monde. C'est une expérience potentiellement dangereuse. Et déjà, il y a du danger avec des applis qui sont dans le Play Store. Donc imagine quand tu vas les chercher ailleurs. Enfin, c'est le risque de se faire siphonner ses données, son forfait, tu sais pas ce qui arrive à tes données.
Ouais, c'est étonnant que Huawei investisse encore dans ce type de smartphone, surtout en Occident, parce que bon, on peut imaginer qu'en Chine, avec leur, ils sont moins dépendants de Google, ça aurait du sens. On vous le déconseille, bien sûr, d'acheter un Huawei, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, vous allez regretter votre choix, ne serait-ce que parce que justement, il n'y a pas ces services Google. Alors, il n'y a pas la 5G, c'est pas encore vital, mais voilà, enfin, sans les services Google, c'est compliqué. Le paradoxe, c'est que en termes de photos, c'est le meilleur smartphone du moment pour DxO.
Exactement, il a même dépassé le Honor Magic 5 Pro, qui était noté numéro 1. Bah maintenant, c'est lui le nouveau numéro 1 en photo, d'après DxOMark. J'ai pas encore testé ce smartphone. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça peut vraiment donner en vrai, mais voilà, noté numéro 1 pour un smartphone qui n'a pas les services de Google, qui n'a pas la 5G,
ouais,
et qui sort en France. Mais voilà, c'est dommage, parce que quand on remonte en 2018-2019, où Huawei était vraiment au grand haut des ventes et chez les clients, on se dit qu'en 4-5 ans, tout a bouleversé, tout a changé.
Laminé, incroyable. Voilà pour Huawei. Un mot aussi sur l'arrivée de Final Cut et de Final Cut Pro sur iPad.
Alors, grande surprise.
Voilà, toi qui es un gros utilisateur des produits Apple, et j'imagine que Final Cut Pro, tu t'en sers souvent sur ton Mac, le fait que ça arrive sur iPad, c'est quand même assez surprenant.
Ouais.
Au-delà de cette annonce, est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que tu as pu tester?
Je n'ai pas encore testé, mais je trouve ça hyper pertinent, parce que depuis le passage des iPads sur les puces M1 et M2 qui sont nécessaires pour avoir Final Cut sur iPad.
Ouais, donc il faut de la puissance quand même.
Il faut de la puissance. L'iPad avait vraiment peu d'intérêt avec autant de puissance. Là, d'avoir des applications qui sont ultra pro, on parle de Final Cut, mais aussi de Logic Pro, qui est pour la partie musique, eh bien l'iPad reprend un peu d'intérêt avec des applications qui sont vraiment intéressantes et qui peuvent justement faire des échanges avec le Mac. On peut commencer son projet sur son iPad, le continuer sur son Mac. Donc ça, c'est quand même vachement pratique, et surtout que ça va apporter beaucoup d'interfaces tactiles, qui est un peu le fer de lance de l'iPad, où on va pouvoir monter au bout des doigts, on va pouvoir avoir des règles, et pareil pour la composition musicale, on peut avoir tous les instruments par-dessus, ce que l'on n'a pas sur un Mac, par exemple, puisque c'est au clavier, ou alors justement avec un clavier externe en MIDI. Donc ça apporte beaucoup de plus, sauf que c'est une grande nouvelle chez Apple, c'est que c'est un abonnement. Première fois qu'Apple fait ça pour un logiciel, il faut s'abonner par mois, 4,99€, pour pouvoir en bénéficier à partir du 23 mai. Donc, quand on sait que sur Mac, Logic Pro et Final Cut, on l'achète une fois et c'est fini, eh bien là, ils font un peu le pari comme pour Adobe, pour Premiere et autres, où on s'abonne tous les mois pour avoir son application. Sinon, on ne l'a plus.
Voilà, et tu t'abonnes en plus par l'App Store, j'imagine. Ouais. Donc,
évidemment.
Évidemment. Alors bon, peut-être qu'ils ont négocié un pourcentage un peu particulier avec Adobe, Apple, mais on peut imaginer qu'effectivement, à chaque fois... quand on passe à la caisse, Apple prend un petit pourcentage, non?
Bien sûr. Je crois que c'est 30% pour les applications.
Oui.
Alors, oui, c'est 30%, mais je ne sais pas si c'est 30% pour les abonnements. Je crois qu'il y a une période où c'est 30% et après ça baisse. Il y avait eu le cas Spotify, justement, qui avait été très, très médiatisé à l'époque. Parce que c'est vrai que Spotify en avait marre de se faire ponctionner 30% sur des abonnements. Alors, je crois que la première année, c'est 30%, et puis après, c'est dégressif.
Et après, ça baisse. Restez abonnés. Non, mais Final Cut, donc c'est fou parce que c'était genre 350€ sur l'achat pour l'avoir sur macOS. Et là, effectivement, à 5€ par mois. Finalement, c'est pas très cher.
Non, c'est pas très cher.
Ça dépend dans le temps, ça peut vite revenir cher, mais tu bénéficies aussi de mises à jour et des updates. Dans le passé, il fallait, quand il y avait une mise à jour majeure, très grosse, il fallait racheter le logiciel. Et logique, c'était pareil. Donc,
mais là, par contre, c'est une bonne version, mais le terme pro est un peu trop élevé parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas sur la version iPad qui existent sur Mac. On peut pas encore importer de LUT, par exemple, dans Final Cut sur iPad. On peut pas importer de texte tiers, de téléchargement, on peut pas importer de données différentes. Si on veut, par exemple, travailler sur un disque dur externe ou un SSD, il faut importer obligatoirement les fichiers dans l'iPad pour pouvoir travailler dessus. On ne peut pas importer un montage vidéo d'un Mac sur iPad. C'est que le iPad vers Mac, ce n'est pas Mac vers iPad. Donc, en fait, il faut obligatoirement commencer sur l'iPad. Donc, il y a quand même quelques petites choses à revoir ou à améliorer dans le futur. C'est un bon début. C'est un plus un iMovie +++. J'ai envie de dire que pour le moment, un Final Cut Pro, comme c'est le cas sur le Mac.
C'est intéressant parce que justement, tu dis un iMovie +++. Est-ce que c'est pertinent de sortir ce logiciel sur Mac si tu as iMovie qui est gratuit? Tu vois, est-ce que...
Sur iPad,
Non,
enfin,
sur iPad, excuse-moi.
Ouais, bah c'est vrai qu'à mon avis, moi je trouve que...
Parce que quand tu es pro vraiment, tu veux toutes les fonctionnalités de Final Cut.
Ouais,
sur iPad, tu te retrouves avec une version light. À la limite, tu prends iMovie, tu arriveras à faire ce que tu veux, non?
C'est très, très light iMovie.
J'aurais tendance à dire que ça peut être un logiciel que qui a plusieurs niveaux, des façons de l'aborder. Donc, par exemple, moi qui l'utilise de façon très, très ponctuelle, je suis un peu nul, mais quelqu'un qui a besoin, il va avoir le clavier dédié, plusieurs écrans, enfin des périphériques et des façons de travailler, un workflow professionnel. Mais c'est vrai que sur iPad, ça m'échappe un peu la pertinence, parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être un peu le truc vieille école, que souris-clavier pour faire le montage, c'est quand même assez ouf. Alors que quand tu touches, pour être précis, le montage, si tu fais un truc calice, il faut être précis. Il faut couper à la seconde précise où il y a le son.
Secondes parfois, enfin,
à la seconde, c'est à la mi-seconde. Et donc, est-ce que l'iPad apportera quelque chose là-dessus?
Après, tu as vu, tu peux, t'as le stylet. C'est compatible avec le stylet.
C'est un gros avantage de l'iPad, justement.
Peut-être que ça rajoute un peu l'ergonomie de la
Apple
souris.
L'Apple Pencil, et de pouvoir, par exemple, pour la première fois, écrire manuscritement sur l'écran et qu'ensuite, ce soit retranscrit en direct, entre guillemets,
dans la vidéo,
sur la façon dont on a écrit. Donc, c'est un petit plus que l'iPad propose que le Mac ne propose pas. Donc, il y a 2-3 fonctions sur iPad qui existent qui ne sont pas sur Mac. Et par contre, il y a beaucoup plus de fonctions qui sont sur Mac qui n'existent pas sur l'iPad.
Toi qui montes beaucoup, est-ce que tu vas t'amuser à faire des vidéos sur iPad pour voir ce que ça donne ?
Je vais tester pendant plusieurs jours, plusieurs vidéos uniquement sur iPad. Mais comme il manque plein de plugins,
tu vas être frustré,
de
LUT,
je ne pourrais pas tout terminer. Donc, je vais commencer sur iPad et je vais terminer sur Mac.
Ce serait limite intéressant d'avoir une version de la vidéo qui a été entièrement faite sur iPad en disant « Regardez, tout ça, j'ai pas pu le faire. Ce que je fais d'habitude et que vous voyez dans mes vidéos, là, je peux pas le faire parce que
il manque la différence. Il manque la fonctionnalité. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que tu fasses deux vidéos, deux montages similaires sur Mac et sur iPad pour qu'on se rende compte vraiment de la différence. Tiens,
je vais le faire. On
lui rajoute du boulot. le pauvre.
Il va nous détester.
Allez, arrête.
Coupez ce passage, s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. Dans l'actu, il y a aussi deux autres sujets qui sont passionnants qu'on va aborder. Zelda, on se le garde pour la fin. C'est Alexa. Alexa, donc, on va dire l'assistant vocal d'Amazon, qui semblait être un peu menacé parce qu'on avait vu que lors de ces immenses vagues de licenciements chez Amazon qui ont été annoncées fin d'année dernière, on avait cru comprendre que, étant donné qu'Amazon ne gagnait pas beaucoup d'argent et en perdait beaucoup avec Alexa, ils allaient mettre un petit peu en pause ce système-là.
Ouais, alors
cela dit, c'est compliqué aussi.
C'est étrange. Bon, déjà, tous les géants de la tech quasiment licencient. Hein. LinkedIn qui vient d'annoncer encore 700 personnes qui partent. On en avait parlé les fois précédentes, Facebook & Co.
Ouais.
C'est les grands départs.
C'est l'hécatombe.
Alexa, c'est quand même la plateforme la plus répandue dans le monde. Et alors, aux États-Unis, c'est juste complètement dingue les parts de marché qu'ils ont. Donc, ils ont été assez forts. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'amélioration significative à tous ces moteurs, mais on peut dire que Siri est bien pire, sur la façon dont on interagit
mais
avec
même Google
eux.
Même Google Home n'est pas terrible. On a l'impression, enfin, quand on les compare à ChatGPT, j'imagine que tu voulais venir là-dessus, on a l'impression de parler à un enfant d'un an et ChatGPT, c'est un ado. Quoi.
C'est là, dans le niveau de suivi de la conversation et de compréhension de ce que tu as dit, que c'est effectivement assez dingue. Et c'est ce que Amazon veut apporter à Alexa. Donc, c'est le côté génératif et c'est dans l'interaction. Recommande-moi une série comme Emily in Paris, mais moins romantique. Recommande-moi une série comme Emily in Paris, mais qui ne se passe pas à Paris. Tu vas pouvoir faire des choses comme ça. Et comme on a une meilleure compréhension du texte et une meilleure capacité à répondre, l'interaction avec l'utilisateur sera meilleure. Est-ce que ça va permettre à Amazon de gagner de l'argent sur ça? Je ne sais pas. Ils essayent beaucoup de choses. Ils explorent aussi l'assistant vocal dans les entreprises. Par exemple, dans les salles de réunion, il y a des périphériques qui sont compatibles à Alexa. Donc, tu peux dire, démarre ma réunion, machin. Dans les hôtels, commande-moi un truc.
Ils avaient passé un accord avec Disney aussi, j'avais vu.
C'est possible, ouais. C'est pas. Mais donc, je pense qu'ils se cherchent encore un peu là-dessus. Évidemment, l'IA, c'est déjà de l'IA, mais donc l'utilisation des large language models, j'arrive plus à parler, est favorable à l'amélioration de ce type de produit. Il faudra le voir en marche pour savoir si ça a un vrai intérêt. Moi, je continue à utiliser les assistants vocaux pour des trucs très basiques à la maison. Éteins les lumières, mets la musique, machin.
Mais je pense que tout le monde fait comme ça.
Ouais.
Clairement. Aujourd'hui, on utilise un assistant vocal, pas pour des recherches de...
Oui, c'est plus une télécommande, finalement, qu'un outil conversationnel. Mais parce qu'on sait que ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais si demain, tu peux avoir une petite discussion avec ton assistant vocal, je ne sais pas moi, tiens, raconte-moi... si on a des gamins, tiens, crée-moi une petite histoire qui s'endorme avec un petit sorcier
Là, tu peux lui faire générer une histoire avec des choses que, mettons, si t'es chez Google ou chez Apple, avec des choses qu'on connaît sur toi. Si on connaît le nom de papa, de maman, des frères et sœurs et des machins, le nom du chien, on peut faire une histoire dynamique.
Mais
il y a plein de trucs à faire, c'est sûr. Mais dans l'utilisation de l'assistant vocal lui-même, je suis curieux, je ne dis pas que ça ne conviendra pas à avoir de longues discussions avec Alexa. Pour l'instant, je suis un peu mitigé.
Mais Alexa reste pour moi le meilleur des trois.
Oui.
Google, Amazon, enfin Alexa et Apple. Alexa est vraiment le meilleur, c'est celui qui s'en sort le mieux, qui a des intonations différentes, qui va raconter des blagues différentes. Même si on lui dit, j'avais testé il n'y a pas longtemps, si on pose une question en chuchotant, il va répondre en chuchotant. C'est assez fou, alors que Google et Apple ne le font pas du tout. Et Apple, vraiment, même si ça ont été les premiers à se lancer, aujourd'hui, ils sont derniers, plus que derniers dans l'IA.
C'est étonnant parce que Siri est vraiment à la traîne, quoi. Ça ne ressemble pas à Apple, cette histoire-là. On peut se
peut-être
dire...
Peut-être qu'ils vont en parler dans deux semaines lors de la WWDC. Et c'est vrai que c'est pas Apple de laisser un aussi gros gap entre la concurrence et eux, sachant que c'est eux qui ont initié un peu l'assistant vocal avec Siri en 2011.
Ah, c'est vrai qu'on leur dans les reproches qui sont faits à Apple, c'est parfois de rattraper ce que font les autres. Et parfois ils innovent aussi, ils sont les premiers à lancer certaines choses. Et là sur Siri, ils ont clairement pas rattrapé ce retard.
Il paraît que c'est dû aussi à des luttes intestines. Je sais pas si vous aviez lu ça. Il paraît qu'il y a des vraies différences de point de vue au sein même de la direction d'Apple concernant Siri.
Il y a l'air d'avoir cette énorme différence de point de vue sur quand est-ce qu'il faut sortir le masque de réalité virtuelle.
Évidemment, on fabule, parce que c'est que des on-dit et des rumeurs, mais c'est vrai que ça ne doit pas faciliter les choses pour avancer dans une seule et même direction quand vous avez... des membres du COMEX qui pensent un truc, et puis l'autre qui disent non, attendez, c'est pas prioritaire, etc. Et on se retrouve avec un Siri, moi l'assistant de dictée de Siri marche bien, mais bon, souvent il y a des conneries, quoi. Et on se dit, et j'ai un pote qui a Google Android, et parfois je teste des Android, ça marche vachement mieux.
Et en fait, si tu utilises les modèles génératifs, donc c'est quelque chose qui sait écrire du texte et comprendre le sens d'une phrase sur la base de tout ce qui se passe autour, c'est comme ça que ça marche. Tu peux aussi, il pourra servir à corriger la bêtise qu'il a initialement compris.
Bien sûr, parce qu'il va comprendre le sens.
Attends, là, ça ne fait pas sens.
Ça veut pas dire...
Donc, je corrige. Alors, et qu'effectivement, pour l'instant, tu peux lui faire écrire une phrase qui ne veut rien dire.
Qui n'a aucun sens.
Et c'est un peu frustrant parce que du coup, tu dois recliquer.
Et puis quand
tu
appuies sur envoi et que tu as oublié de corriger, et que tu envoies des trucs qui ne veulent rien dire.
Ça vous dit un peu l'expérience.
Ça va arriver, ça.
Et surtout que parfois, il ne comprend juste pas ce qu'on lui dit. Des choses basiques d'allumer ou éteindre les lumières, il ne va pas comprendre. Alors que pour important, c'est on ne peut plus simple, et c'est, je pense, 90% des cas chez les personnes qui ont ça chez eux, c'est d'allumer ou d'éteindre des lumières ou de mettre un minuteur. On ne demande pas grand-chose de plus aujourd'hui à un assistant vocal qu'on peut avoir avec Alexa, Google ou Siri. Donc je pense que si demain l'intelligence artificielle via ChatGPT ou je ne sais quoi s'intègre à l'intérieur, bah, les gens vont créer d'autres choses et ça peut être intéressant. Qui sera le premier à l'intégrer ? On verra ça
va être, ça va être très intéressant. Tiens, projetons-nous à la prochaine WWDC, ce sera le 5 juin prochain, ce sera à suivre bien sûr sur la chaîne Tech & Co, hein, avec le live, et puis on en parlera le soir dans Tech & Co. Qu'est-ce que tu en penses, JB ? Tu vas sans doute aller là-bas, hein, comme chaque année, on va voir, hein, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais tu vas sans doute aller là-bas. Qu'est-ce qu'on attend de cette WWDC ?
Bah, une très très grosse WWDC, qui est la conférence des développeurs d'Apple, sûrement peut-être la plus grosse jamais faite par Apple, d'après les rumeurs encore une fois.
Ouais.
Tous les logiciels qu'on connaît depuis belle lurette, iOS, iPadOS, macOS, WatchOS, mais peut-être des produits, un MacBook Air 15 pouces, qui sortirait enfin, qui est attendu depuis des années, mais surtout un masque de réalité virtuelle, qui ferait ses premiers pas le 5 juin prochain. Encore une fois, c'est une arlésienne, on en parle depuis des années, comme l'Apple Car, comme la télé Apple, on en entend parler, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut apporter de plus à l'utilisateur ou au quotidien. Affaire à suivre, en tout cas, c'est ce qui s'annoncerait pour le 5 juin prochain.
Voilà, beaucoup d'attentes hein, concernant cette keynote.
Ouais, très curieux.
J'espère qu'Apple ne va pas nous décevoir. On leur met la pression. Allez, il nous reste un peu plus de 5 minutes. La dernière actu, elle est alors là bouillante, hein, puisque c'est ce week-end que sort le nouveau Zelda. Un jeu hyper attendu, bien sûr. Zelda, c'est un peu le Graal en matière de jeux vidéo. C'est l'une des marques les plus fortes chez Nintendo.
Avec Mario Kart, c'est le jeu le plus connu, effectivement, chez Nintendo. C'est plus de 125 millions de jeux vendus. On alors, depuis 1986. Hein, un jeu qui existe depuis longtemps.
Sur la Nintendo NES.
Voilà. Et sur la Switch maintenant. Chez Nintendo, ils espèrent quand même que ça va faire remonter le niveau des ventes de la Switch. Alors, si vous connaissez pas la Switch, qui est quand même impossible, mais c'est quand même cette console super maligne qui peut servir à la fois à la maison branchée à une télé et en mobilité, très 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 smart, sur lesquelles sortent encore des titres vraiment sympas. Zelda, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu ouvert, donc on peut le faire dans le sens qu'on veut. Il n'y a pas un parcours tout tracé d'obtention d'une première mission qui donne lieu à une deuxième, on peut le faire comme on veut. Donc il y a des gens qui s'amusent d'ailleurs à faire des speedruns, c'est-à-dire finir le jeu le plus vite possible. Ce sont des gens impressionnants, pour ne pas dire des fous.
Et puis après, voilà, il y a toujours plein de petites énigmes.
Voilà, enfin, c'est un jeu très poétique.
De réflexion et puis d'action.
Oui, c'est un
aussi.
Jeu qui fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a une partie combat, et il y a aussi une partie avec ce qui s'appelle les shrines, qui sont des endroits où tu dois résoudre des énigmes basées sur le mouvement de pièces, etc. Ça fait travailler le cerveau, contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire sur les jeux vidéo qui rendraient bête. Je ne pense pas que ce soit le cas, celui-là.
Ça, c'est en train de changer, ça. Espérons-le.
Oui, ça change. Donc celui-là, il prend la suite de Breath of the Wild, il s'appelle Tears of Kingdom. The Kingdom, il est censé sortir ce vendredi, donc ça va occuper les gens ce week-end.
Ce week-end,
Et la nouveauté majeure, alors, parce qu'évidemment, il y a plein de choses nouvelles dans le jeu, mais c'est que c'est un jeu qui est sans temps de chargement. Donc, a priori, là, quand tu passes d'un univers à l'autre, quand tu te téléportes, parce que dans ce jeu, qui est très réaliste, tu peux te téléporter d'un endroit à l'autre d'une map qui est très grande, il n'y a plus de chargement. Tu n'en attends plus. Tu es
ça,
directement.
Top, hein.
Et ça, je pense qu'en termes d'expérience joueur, c'est quand même assez génial. Ça évite tout ce temps mort qu'on connaît.
C'est pas dû uniquement à la Switch OLED qui est plus puissante, c'est juste dû au jeu
vidéo.
Je crois
pas que ça soit lié à la console elle-même, mais plutôt au développement du jeu vidéo. J'ai pas les détails pour être franc. Donc assez curieux de voir ce nouvel opus auquel je vais jouer.
Ouais, c'est clair, parce que c'est un jeu qui tourne sur une console qui commence à dater. Hein. Mm-hmm. Je crois qu'elle a 6 ans, la Switch.
Enfin,
elle était lancée, je crois.
Ben voilà, donc 6 ans, ça commence à dater. À l'époque, ce n'était pas déjà un foudre de guerre.
Non.
Donc, faire tourner un Zelda, alors qu'il a l'air... bon, on n'est pas au niveau d'une PlayStation 5, on n'a pas la résolution, effectivement, d'une PS5, mais à la limite, on s'en fout. Mm. Ça va au-delà de ça.
Oui, hein, fait, c'est la force aussi de Nintendo dans ses jeux, c'est que tu ne cherches pas le réalisme à tout prix. Tu es dans un univers graphique, visuel... Et sensoriel, parce qu'il y a toutes les musiques, il y a les interactions avec les gens, il y a vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté poétique qui prend le dessus sur est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un humain face à moi.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est ce que j'aime bien. Non, c'est pressé de
très attendu et perso, moi, c'est l'une des licences de jeux que voilà, que j'ai connu dès le départ. C'est rigolo parce qu'on en parlait juste avant de préparer cette émission. Tu connais pas Zelda, enfin tu connais pas.
Je connais, mais j'y ai jamais joué.
T'as jamais joué?
Non, je suis pas un gamer, je suis pas du tout dans le monde des jeux vidéo. Enfin, j'y ai jamais baigné. Je jouais à Mario Kart Double Dash sur la GameCube il y a 15 ans, mais pas plus que ça.
Et t'as pas enchaîné quoi?
Non,
t'as pas,
moi je suis enchaîné dans la tech. Enfin, à fond, dans les vidéos, dans
les points liés.
C'est ça, mais dans les jeux vidéo, non. Comme quoi, ce sont parfois quand même deux mondes totalement différents.
Et parce que ça t'intéresse pas ou parce que t'as pas le temps?
Les deux. J'essaie parfois
ça
de
fait
me.
Beaucoup de paramètres alors pour pas qu'ils jouent.
Ouais, non, j'essaie de me plonger parfois dans des jeux vidéo. Là, il y avait Hogwarts Legacy qui est sorti. Je suis un grand fan d'Harry Potter et j'essaie d'y jouer. Bon, bah, j'y joue 5 minutes, mais après, je passe à autre chose.
Et... Ouais, et puis t'as pas beaucoup de temps, j'imagine
ça,
aussi.
Et ça prend du temps quand même.
Tu vas pouvoir préférer monter des vidéos.
Ah ouais, c'est ma passion, moi. J'adore.
C'est ça ton jeu vidéo, finalement.
Et bah, bien sûr.
Non, mais on plaisante, ouais. Mais c'est ça. Tu prends, bah, ouais. Tu kiffes à monter tes vidéos, ah, ouais. À faire ton truc. Et,
clairement.
Et,
bien sûr, c'est mon échappatoire de monter des vidéos, comme certains vont jouer à des jeux vidéo pour s'échapper un peu de la réalité. Voilà, donc non, j'ai jamais testé. Peut-être que je testerai. En même temps, j'ai pas de Switch, donc ça va être un peu compliqué.
C'est un appel à Nintendo.
Mais
équipez-le.
Mais ouais, toi, ouais, mais tu t'adores. Bon. T'es fan.
Moi, j'ai beaucoup joué. Alors, je joue pas mal à la Switch, mais c'est vrai que ce Zelda, je l'attends avec beaucoup d'impatience parce que, bah, voilà, c'est un peu ma Madeleine de Proust, quoi, en quelque sorte. Et c'est toujours intéressant de voir comment ce jeu a évolué, parce que les histoires sont toujours un peu pareilles, quoi.
Oui.
Voilà, il y a pas 36 trucs à raconter. Mais bon, voilà, ça fait partie des jeux un peu mythiques, quoi.
Et alors, mon petit conseil pour finir, si vous avez envie de vous mettre au jeu vidéo et que vous avez la curiosité, essayez It Takes Two. C'est un jeu super mignon qui se joue à deux et qui ne nécessite pas d'être expert des jeux vidéo. Et ça existe sur plein de plateformes, dont je crois la PlayStation. Ça se joue entre amis, en couple, entre tout ce qu'on veut. C'est adorable. Et ouais, ça ne nécessite pas d'avoir joué pendant 10 ans. It Takes Two. Il faut être deux. Trop mignon.
C'est vrai ?
Ouais.
Mais tu peux jouer quoi, sur mobile, sur
Non, c'est que sur console, à ma connaissance, peut-être sur PC aussi. Et j'ai joué à ça avec mon frère, j'ai des amis qui jouent en couple. C'est incroyable. Et très, très bien fait. Et super varié. Donc, ça, c'est aussi le jeu où tu te dis, bah, ouais, ok, maintenant que j'ai compris la mécanique, je fais tout le temps la même chose.
Eh bien, écoutez, voilà, on souhaite plein de bonnes choses à tous ceux qui vont jouer à ce week-end à Zelda et qui attendent ça avec impatience. Ça y est, il est sorti. Enfin, d'ailleurs, Nintendo a eu une petite mésaventure avec ce jeu qui a fuité avant sa sortie officielle, ce qui est un vrai drame,
ouais.
pour Nintendo, parce que, en fait, le jeu était disponible en téléchargement pirate. Je crois qu'il y a 2 semaines en fait, ça a été terrible. Eh bien, merci beaucoup messieurs. Gonzague, toujours
plaisir.
Un plaisir de t'avoir. Bouche Cousue se porte bien.
Bouche Cousue m'occupe bien.
Ta boîte.
Comme JB est très occupé avec ses vidéos, le travail m'occupe bien.
Voilà, et puis bah écoute JB, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu, tu le sais très bien. Et on peut te retrouver dès maintenant, voilà, sur ta chaîne.
Exactement.
Pour découvrir toutes tes vidéos. C'était un plaisir de passer cette petite heure en votre compagnie. De quoi je me mêle est terminé. On sera là, bien sûr, le week-end prochain sur BFM Business, sur YouTube, en podcast, audio, vidéo. À très très vite, à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.